Aujourd'hui, il sera question de Saint Raymond de Peignafort, un dominicain d'une grande humilité, d'une très grande humilité. Et pourtant, il était maître général des dominicains. C'était un avocat qui a vécu près de 100 ans. Il est né en 1175, il est mort en 1275. Un peu plus, si on a célébré son centenaire à l'époque, c'était extrêmement rare. Saint Raymond de Peignafort est né en 1175, donc au château de Peignafort. C'est de là que vient son nom, le château de Peignafort. P-E-N avec ce petit signe espagnol au-dessus du N qui adoucit le N, n'est-ce pas? A-F-O-R-T, Peignafort. C'est un peu de distance de Barcelone, quoi. En Catalogne. C'est un catalan, finalement. Et le nom de Peignafort vient des mots Peñafuerte, c'est-à-dire un petit fort, ou un petit rocher, plutôt, une petite montagne. Il appartenait, par son père, à une famille de chevaliers. Et Saint Raymond va hérité du tempérament de cet homme. Et dès l'enfance, il aura, si on peut dire, la sagesse d'un vieillard. C'est un peu exagéré, mais disons que c'était un enfant très sage et qui savait raisonner avec beaucoup de clarté. Déjà dans son jeune âge, et ça arrive chez des enfants, ça, les plaisirs du monde ne l'intéressent pas, il trouve pas ça drôle. Tu sais, ces enfants qui restent à part des autres, pas nécessairement par gêne, par timidité, mais on dirait qu'ils ont un goût pour l'étude, un goût pour la réflexion, un désir de rendre service aux pauvres, et puis ils ont 10 ans, mais les plaisirs, le sport, le hockey, tout ça, ça ne les intéresse pas, ils sont pas capables. Il aime mieux, lui, Saint Raymond, l'étude. Il veut donc apprendre, puis pratique l'obéissance. Pratique l'obéissance? Oui, pratique l'obéissance, c'est une des grandes vertus des dominicains, paraît-il. Vous allez voir comme il sera un grand dominicain. Il fait des progrès très rapides dans l'étude ce qu'on appelle les humanités, le cours classique, si vous voulez, et la philosophie. Le cours classique tel quel n'existait pas dans le temps, mais c'était une espèce de préfiguration de ce qui est devenu le cours classique qui est disparu de nos collèges. Et que moi, j'ai suivi, ma génération, nous avons suivi ça. Dès l'âge de 20 ans, Raymond de Peignafort enseigne déjà publiquement la philosophie à Barcelone. On peut dire que Dieu veille sur lui. Il veut se rendre utile à l'Église, ce jeune Raymond de Peignafort. Et Raymond se rend bientôt à Bologne en Italie, c'est pas la porte. Mais ça valait la peine parce que Bologne est une ville très importante sur le plan des études. Alors il veut étudier avec soin le droit civil puis le droit canonique. Comme je vous ai dit, c'était un avocat. Alors, il y obtient là, à Bologne, avec beaucoup de succès, une chaire de docteur. C'est-à-dire qu'on lui offre d'enseigner comme un docteur en droit civil et canonique. Et pendant 3 ans, donc, il enseigne le droit canonique, c'est-à-dire les lois de l'Église, avec un succès qui amène autour de lui les nobles puis les hommes de lettres qui veulent en apprendre davantage. Ça ne doit pas être facile de rendre le droit canonique intéressant. Il avait le don, paraît-il, de rendre ça intéressant. C'est une matière assez sèche souvent que le droit. Et les Bolognais, les Italiens, les Bolognais, la Bologne, ils sont vraiment touchés par son désintéressement. C'est un homme, je vous ai dit, humble. Il ne demande pour prix de ses leçons que le progrès de ses auditeurs. Tout ce qu'il veut voir, c'est ses élèves ou ses gens qui viennent l'écouter progresser. Il cherche, eux, à le retenir. Il lui offre des appointements qu'on prélève sur les ressources de la ville. Et Raymond les accepte, mais qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il préfère ne rien garder pour lui-même, ne distribuer aux pauvres. Après avoir payé, bon, d'accord, la dîme au clergé de sa paroisse, puis Et son logement, sa pension très humble, et tout le reste va aux pauvres. En 1219, il a déjà passablement vieilli, n'est-ce pas? Béranger, qui est évêque de Barcelone, après son pèlerinage à Rome, passe par Bologne, puis il y trouve son diocésain, puisqu'il est évêque de Barcelone, puis Raymond est né à Barcelone, près de Barcelone. Il y trouve donc son diocésain Raymond de Peñafort, puis il décide à rentrer à Barcelone, au grand regret de l'université puis du Sénat de Bologne, qui perdent un homme exceptionnel, un saint. Raymond, qui a maintenant 45 ans, est nommé chanoine par son évêque à la cathédrale de Barcelone. Ça existe encore des chanoines à la cathédrale de Barcelone, du moins ça existait il y a quelques années, je les ai vus quand je suis allé vénérer le tombeau de Raymond, mon patron, Raymond de Peñafort. Puis, il devient archidiacre, il devient grand vicaire, puis official. Alors il inaugure sa rentrée, avec tous ses titres, en obtenant que la fête de l'Annonciation ait une plus grande solennité, le 25 mars. Puis, il augmente toutes ses générosités envers les pauvres. Les pauvres, il leur donne un nom. Il les appelle ses créanciers. Un créancier, hein, il faut le payer. C'est une dette que l'on a à l'égard de son créancier. Et si on savait que l'argent que Dieu nous a donné, c'est une dette que nous avons, en fait, à payer aux pauvres, ça changerait bien des choses. Au moment de sa rentrée, donc, à Barcelone, je vous le rappelle, c'est en Catalogne, en Espagne, tout près de la France, du côté de la Méditerranée, là, Barcelone, grande ville importante. Mais les Dominicains viennent d'y établir, c'est nouveau, les Dominicains, à ce moment-là, viennent d'y établir un couvent de leur ordre, les Raymond, et vite frappés de leur vie sainte et désintéressés, ces Dominicains. En même temps que des succès de leur prédication. C'est l'ordre des frères prêcheurs, hein? C'est pour ça qu'ils mettent O.P. après leur nom, Ordre des prêcheurs. C'est leur spécialité, paraît-il, la prédication. Un qui prêcherait bien ici, c'est le père Benoît Lacroix, hein? Vous l'avez déjà entendu. Fatigué de tous les avantages que lui offre le monde, là, il reçoit donc l'habit des frères prêcheurs le vendredi saint 1222. C'est un beau jour pour recevoir l'habit. C'est un bel habit en plus de ça. Hein? Et il reçoit donc à Barcelone 8 mois après la mort de Saint-Dominique, voyez-vous, qui a fondé l'ordre des Dominicains. Il a alors 47 ans, vocation tardive. Aucun novice n'est plus humble pourtant, plus obéissant et plus fervent que lui. Il supplie les supérieurs de lui imposer une pénitence spéciale pour les fautes qu'il a commises avant d'entrer chez les Dominicains. Et cette pénitence n'est pas du tout celle qu'il attendait. Son père provincial ordonne au frère Raymond d'écrire une somme des cas de conscience, puisqu'il est un spécialiste en droit canon, puis en droit... Alors, une somme, c'est-à-dire une... tout ce qu'il peut y avoir de cas de conscience à l'usage des confesseurs. Un travail qui doit être épouvantable. Quel ennui faire ça. Hein? Et le jeune novice se met humblement, docilement à l'œuvre. Et cet acte d'obéissance, ça a valu à l'Église, pour ce temps-là, la somme des cas pénitentiaux. C'est la première œuvre de ce genre qui est parue. Il y en a d'autres qui se sont penchés sur ces questions-là. Hein? Qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, etc. C'était une attitude presque dévorante de la part de ces gens qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui était péché, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui était grave, qu'est-ce qui n'était pas grave, dans quelles circonstances atténuantes, etc. Et bientôt, Saint Raymond de Peñafort, qui est surtout un homme d'étude, se lance, si on peut dire, dans la prédication. Et puis, aux exercices de sa solitude, il ajoute donc la prédication. C'est l'époque, ça, où il y avait un cardinal évêque de Sainte-Sabine à Rome, le cardinal Jean d'Abbeville, qui arrive en Espagne avec une mission de prêcher, une sorte de mission, de campagne, si vous voulez, comme si on peut parler en termes un peu de guerre, contre les morts. les musulmans qui sont installés en Espagne. Et pour régler différentes affaires, parce qu'il y avait des problèmes avec les musulmans. Nous en avons toujours dans les pays où nous sommes installés, puis il y a des musulmans. Actuellement même, nous sommes souvent persécutés. En Indonésie, c'est la catastrophe. Les musulmans là-bas, c'est le plus grand pays musulman. Nous sommes traités de façon abominable. J'ai rencontré dernièrement des catholiques indonésiens, c'est terrible. J'en ai rencontré qui viennent du Soudan, c'est terrible. Ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est terrible. Il faudrait que nos frères musulmans, ici à Montréal, nous appuient, nous, chrétiens, et revendiquent, au nom de l'intégrité des grandes religions, de la bonne entente, que ces persécutions cessent à travers le monde actuellement, à l'heure où je vous parle. Or, le cardinal Jean d'Abbeville est frappé de la réputation puis des succès de Raymond de Pennefort. Il en fait son auxiliaire et l'envoie partout devant lui pour préparer les fidèles, pour annoncer l'indulgence papale, c'était très recherché, pour réconcilier les pécheurs. Et de cette façon, ben, ce légat du pape, cet envoyé du pape, trouve partout le terrain préparé puis les affaires dans les meilleures conditions pour le succès de sa mission. Rentré à Rome, le cardinal Jean d'Abbeville informe le pape des grandes qualités du frère prêcheur Raymond de Pennefort. Aussitôt, Grégoire IX fait venir Saint Raymond, dont il fait son chapelain, son pénitencier, et même son confesseur, puis il le charge de compiler ce qu'on appelle les décrétales, c'est-à-dire encore un travail épouvantable, de résumer puis de ranger dans un ordre méthodique les lettres des papes sur les points de discipline. Alors pour Saint Raymond, ça va, il accepte avec docilité les charges et les obédiences, mais ça lui répugne de recevoir des honneurs. Et le pape Grégoire IX, en reconnaissance de tout ce qu'il fait, qui c'est tellement merveilleux le travail qu'il accomplit, mais en reconnaissance, il veut le nommer comme archevêque de Tarragone, toujours dans la région là de Barcelone. C'est la métropole du pays d'Aragon, ça. On a entendu parler ça quand on a parlé de Saint-Ignace, n'est-ce pas, Saint-Ignace de Loyola. Et Raymond en est tellement affecté, il veut pas. Comme il le dit plus tard à ses frères, il a été pendant 3 jours en proie à une fièvre continue, rien qu'à penser de devenir archevêque. Je vous ai dit, il était très humble. Il n'est pas d'honneur. Alors, il en a été extrêmement tourmenté, puis il fait donc intervenir les cardinaux pour ne pas avoir à subir cet honneur, et le pape finit par céder à tant d'instances, mais il y met comme condition que Saint Raymond de Pennefort, ou Raymond de Pennefort, désigne lui-même le titulaire pour le remplacer, et le pauvre frère prêcheur propose un pieux et savant chanoine, le chanoine Guillaume de Montgris. Et là, par la suite, Raymond refuse d'autres dignités avec la même fermeté. Il ne veut rien de tout cela. Quel homme, déjà très humble malgré son génie, son grand talent, et malgré les appels à la gloire, si on peut dire, il n'en veut pas. Après 5 ans passés auprès du pape, Raymond de Pennefort tombe malade, il est épuisé par le travail, les austérités. Les médecins conseillent le changement d'air, puis le retour dans son pays. Le pape finit par y consentir, il regrette beaucoup le départ de Raymond de Pennefort, mais il cède au désir de conserver la vie de quelqu'un dont la présence lui est si chère. Et alors, muni de son autorisation, bien Raymond de Pennefort quitte la cour de Rome, la cour du pape, tel qu'il y était entré, c'est-à-dire sans office, sans bénéfice, sans pension. Il quitte comme un pauvre. Le rôle qu'il a joué, un rôle très important, n'a rien changé à sa grande humilité. Alors il voyage par mer, plutôt que avec une monture. Il débarque dans un port de Catalogne, nommé Dossa. Et là, il rencontre un homme appelé Barcelone Dufar, malade à l'extrémité, et qui a perdu l'usage de tous ses sens. Ce pauvre homme est incapable de se confesser. Et après avoir prié Dieu pour ce pauvre malheureux, donc Saint Raymond de Pennefort lui demande s'il veut se confesser, puis il n'obtient aucune réponse, incapable de parler. Il fait mettre tous ses compagnons en prière, puis il répète sa question. Cette fois, le malade semble sortir d'un sommeil profond, et il dit, « mais oui, je veux me confesser, et j'en ai un vif désir. » Alors là, les assistants se retirent à l'écart pour permettre à Saint-Raymond de confesser. Saint-Raymond entend le malade, lui donne l'absolution, et aussitôt après, ce pauvre mourant, ce pauvre malade, rend son âme à Dieu dans la paix. Il s'est réconcilié avec Dieu. Il a retrouvé la parole miraculeusement. Saint Raymond rentre à Barcelone, donc, dans son pays. Sa santé est revenue, il reprend sa vie de pénitence, qui est vraiment exemplaire, hein. Comme avec la ferveur d'un novice. Il n'est pas jeune, hein. Pour mieux garder le recueillement puis la solitude, il renonce à son pouvoir de grand pénitencier, puis il accepte d'user de ce pouvoir qu'en faveur des religieux de son ordre, les dominicains, et de ceux de l'ordre de Saint-François, les franciscains. Son biographe a retracé sa manière de vivre. Voici le texte, comment Saint-Raymond de Peignafort vivait. « Chaque jour, et sauf le dimanche, Raymond ne prend qu'un seul repas. Il fait une station à chacun des hôtels de l'église. » Chaque nuit, il se donne la discipline. Son oraison est presque continuelle et accompagnée de beaucoup de larmes. On dit même qu'un ange l'éveille un peu avant le signal des matines, le fils de nuit, là, pour le convier à faire son oraison. Tous les jours, il célèbre avec dévotion le saint sacrifice de la messe, après avoir fait une exacte confession de ses péchés. Dieu, mon Dieu, il se confessait tous les jours. Pas possible. Et les jours où, par suite d'une nécessité pressante, il ne peut le faire, tout le reste de la journée, il est assombri. » Fin de la citation. Alors, son plus grand désir à Raymond aurait été de mener une vie intérieure, mais Dieu ne l'a pas appelé à la vie religieuse pour lui seul, hein. Il le vit utile à ses frères dominicains. Et à la mort de Jourdain de Saxe, en 1238, c'est le successeur de Saint-Dominique, mais les pères dominicains, assemblés à Bologne, en Italie, s'accordent pour nommer à sa place Raymond de Peignafort, qui va devenir successeur, donc, de Saint-Dominique, à la tête des Dominicains. Il était alors à Barcelone. La nouvelle lui a été annoncée aussitôt. Il a dû s'incliner, faire la volonté de Dieu. 2 années durant, Raymond gouverne donc tout l'ordre avec une sagesse admirable. Il visite à pied toutes les provinces, et après quoi, il fait assembler un chapitre général à Bologne, puis là, il renonce au généralat. Son humilité l'emporte. C'est sous prétexte qu'il ne peut plus, à cause de ses infirmités puis de son grand âge. Hein. Il a alors plus de 70 ans, et les Dominicains acceptent. Il retourne donc joyeux et content dans son premier couvent de Barcelone, en Catalogne, en Espagne, mais il n'est pas question pour lui de demeurer inactif, hein. Le reste de la vie de Saint-Raymond de Peignafort se partage entre le cloître et son pays. Il retrouve en Catalogne Saint-Pierre Nolas, qui est le roi d'Aragon, Jacques Ier. Il avait aidé le premier, Saint-Pierre Nolas, de ses conseils pour la fondation de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, qui est très populaire en Espagne. Et Jacques Ier, de son côté, ne manquait pas d'attribuer aux prières de Saint-Raymond de Peignafort les succès remportés sur les musulmans, les maures. Mais il fallait reconquérir des provinces qui leur avaient été trop longtemps asservies en Espagne. L'œuvre de régénération était à reprendre, comme au temps apostolique, hein, comme au temps du début de l'Église, auprès d'une population qui était plutôt esclave du plaisir, qui était imprégnée d'une espèce de philosophie froide comme la nôtre aujourd'hui. Puis une philosophie qui est ennemie des mystères comme ils le sont aujourd'hui. Les gens veulent plus croire parce que c'est mystérieux. Dieu, c'est mystérieux, il peut pas exister parce qu'il existe depuis toujours. Puis le Christ, on dit qu'il est Dieu, c'est un mystère, on peut pas croire à ça. Puis l'Eucharistie, puis tous les mystères. Je vais vous en parler, j'espère, un de ces jours. Et Saint Raymond de Peignafort comprend qu'il faut se mesurer donc avec le vieil ennemi, là, sur le terrain des démonstrations scientifiques. Alors, il décerne en saint Thomas d'Aquin ce génie capable de fournir des arguments pour défendre comme il faut la foi catholique. Je vous avais parlé de saint Thomas d'Aquin, je vous le signale, ceux qui veulent la cassette, le 28 janvier 1997, 28 janvier, il y a près d'un an. Alors, Il lui écrit donc pour lui demander la composition d'un ouvrage à saint Thomas, un ouvrage tel que les circonstances le réclament. Et saint Thomas d'Aquin, bien, accueille cette demande, puis compose quoi? La somme contre les gentils, c'est très important. La somme contre ceux qui sont en dehors de l'Église et qui nous posent des objections. Comment répondre? L'amitié de saint Raymond pour Jacques d'Aragon ne l'aveugle jamais. Il va pas jusqu'à lui faire excuser ses faiblesses, ses ambitions. Vers la fin de son règne, Jacques, qui est roi, doit passer dans l'île de Majorque, sa plus vieille conquête. Et là, il manque de foi. Parce que le manque de foi est très répandu. Le manque de foi règne en maître à Majorque. Il y a un problème, d'ailleurs, parce que les Juifs avaient été chassés du continent, puis se sont réfugiés à Majorque. Jacques propose à Raymond, saint Raymond de Peignafort, de l'accompagner dans ce voyage. Et comme il s'agit d'aller lutter contre des erreurs et ramener à la foi catholique ceux qui se sont perdus, puis de sauver des âmes, saint Raymond n'hésite pas, il accepte. Mais à peine rendu dans l'île, là, il voit ses projets d'apostolat renversés par un grand scandale. Encore une fois, ce Jacques, ce roi, comme bien d'autres rois, on le voit bien avec le prince Charles et la famille royale d'Angleterre, mais il a cédé à une vieille et malheureuse passion et il vit dans le concubinage avec une femme de sa cour. Alors saint Raymond, il réussit pas à oublier les faiblesses du roi. Aussitôt qu'il apprend ce qui se passe, il va le trouver, puis il lui demande de cesser ce désordre au nom du salut de son âme, comme au nom de tout le peuple. Mais Jacques n'a pas le courage de se vaincre. Mais la longue et belle vie de saint Raymond de Peignafort approche de son terme. Chaque jour, il s'était préparé à la mort, et depuis sa démission, ben, il donnait une attention particulière à cette préparation. À la première nouvelle qu'il est atteint d'une maladie grave, toute la ville de Barcelone est consternée, et le roi et la reine de Castille, alors présents dans cette ville, viennent plusieurs fois témoigner leur vénération puis leur sympathie à cet humble religieux. Je le répète toujours, humble religieux, c'est la grande qualité de saint Raymond de Peignafort, son humilité. Alors Jacques d'Aragon, à court, il multiplie ses visites, il prescrit des prières publiques pour demander la guérison du malade. Et saint Raymond de Peignafort sait que ses prières ne sont pas exaucées. Il salue avec joie le terme de son pèlerinage. Et c'est le 6 janvier 1275, jour de l'Épiphanie, qu'il entre dans le ciel. Il a alors 99 ans, oui, 99 ans. Les rois, les princes qui ont visité Raymond dans sa dernière maladie assistent donc à ses funérailles et elles se sont marquées par des miracles sans nombre, dit-on. Mais cependant, les procédures pour la canonisation, savez-vous, n'ont abouti qu'en 1601, sous Clément VIII. C'est assez curieux, assez curieux. C'est un saint, moi qui m'est cher, évidemment, c'est mon patron. Parce que saint Raymond est considéré comme le patron des docteurs en droit canon. Je salue ces prêtres et ces gens qui sont spécialistes en droit canon. J'aurais jamais voulu être spécialiste en droit canon, ça doit être très difficile, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est surtout son immense amour des pécheurs qui donne tant de lumière à la vie de saint Raymond de Peignafort. En cela, il est une image de Dieu, une manifestation de Dieu, une épiphanie de Dieu, qui éclaire les hommes en leur donnant la force d'être fidèles. Il s'est servi de son intelligence, non pour condamner, mais pour aider, toujours. Il voulait toujours aimer et servir. Il s'attachait surtout à montrer que les épreuves sont comme permises par Dieu pour purifier le cœur de ses enfants. Un jour, dans une prédication, il disait, « Si le glaive vous frappe, il faut admettre que c'est la joie parfaite et un signe d'amour. » Il faut avoir la foi, hein, pour dire ça. Si le glaive vous frappe, il faut admettre que c'est la joie parfaite et un signe d'amour. Alors, tournant les pénitents vers le Dieu d'amour et de paix qu'il prêchait, c'est pas d'aujourd'hui qu'on prêche ce Dieu d'amour et de paix. Mais il sortait, Raymond Peignafort, il sortait leur cœur de la tristesse, puis il leur redonnait la joie de se savoir aimer. Mais cet homme, riche en miséricorde et presque lui-même une obéissance absolue puis inconditionnelle en vrai dominicain de l'époque, mais j'espère qu'ils le sont toujours, il désirait mettre les autres sur ce chemin de docilité à Dieu. Il était très, très conscient des exigences du Christ sur ses amis, mais était convaincu que celui qui se penche sur la loi de liberté trouve son bonheur. La loi de liberté, oui, la loi de Dieu rend libre, la loi de l'Église rend libre. Quand l'Église nous dit aller à la messe le dimanche, au moins une fois par semaine, elle nous dit, vous allez être libérés, vous allez être libres. Vous allez être nourris du corps du Christ. Vous allez adorer Dieu, le louanger. Vous allez plonger dans la Trinité. C'est là qu'est le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le fait de rester couché dans son lit en train de manger son petit déjeuner dans son lit pendant que les autres prient. Alors à son exemple, on devrait pouvoir mieux vivre de l'espérance qui nous fait jamais oublier la miséricorde de Dieu. Dieu permet que le juste pêche 7 fois par jour pour lui faire comprendre que sans lui, il ne peut rien faire de bon. Tous les saints sont des pécheurs, ils le disent eux-mêmes. Et devenu pareil aux petits-enfants qui tombent sans cesse mais se relèvent aussitôt, bien, on peut, me semble, continuer d'avancer, puis attentif, à toujours faire la volonté de Dieu. Nous avons entendu de la musique composée par un jeune compositeur de 27 ans. On va voir ce qui s'est passé dans la vie d'un jeune homme qui a cessé de croire à 16 ans, qui a tout fait, puis qui s'est converti, puis qui est devenu dominicain, un dominicain d'aujourd'hui. Un dominicain vraiment remarquable, pas n'importe quoi, vraiment un type exceptionnel, le père Jean-Daniel Ballet. C'est un musicien, il étudie la musique. Il dit que la musique est un don gratuit, il a bien raison, un don de Dieu. Il dit on crée pour les autres, il a bien raison. Un chrétien ne fait pas de musique pour lui-même. Il dit cela n'a de sens de composer si ce n'est pour jouer et donner un concert. C'est un dominicain qui est jeune, qui est mince, qui a le regard vif. C'est un converti qui sait rendre à Dieu ce qui vient de Dieu. Jean-Daniel Ballet, 32 ans, est donc compositeur, il est aussi religieux dominicain, comme Saint-Raymond de Peignafort, il est prêtre. Et depuis un an et demi, il vit à Genève, en Suisse, au sein d'une communauté de dominicains qui ont la charge d'une paroisse de la ville, comme les dominicains de la paroisse Saint-Jude sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Mont-Royal. Et il y a la paroisse Notre-Dame-de-Grâce aussi, qui est tenu par des dominicains, ici à Montréal. Mais il est né, lui, non pas à Genève, mais il est né dans le Valais, à Grosne, c'est ou dans les Alpes suisses, là. Et l'hiver, certaines maisons restent 2 mois sans voir le soleil. C'est pire que de nos jours à Montréal. Et ces dominicains modernes, profondément croyants, convertis, qui passaient de l'athéisme à la foi, raconte qu'en revenant au village, il dit, on quittait le soleil pour entrer dans l'ombre. C'était une image forte qui m'est restée, ça. Il dit, vous êtes dans l'obscurité, puis vous voyez d'autres bénéficier de la lumière. Alors, on aspire à être avec eux dans la lumière, évidemment, j'imagine. Sa famille est très catholique. C'est des catholiques montagnards qui sont bien ancrés dans la foi. Ils n'en parlent pas tellement. Ils comptent sur Dieu. Puis Dieu fait partie de la vie, c'est tout. Enfant, il a toujours ressenti une forte attirance pour Dieu, au point qu'il ne peut pas dire à quand remonte sa vocation. Il vivait avec. Tout petit, il avait entendu l'histoire de Samuel. Vous savez, raconté dans la Bible, lui, il l'avait vu dans une Bible illustrée. Samuel qui entend la voix de Dieu, qui l'appelle. Hein? On lit ça dans la liturgie de nos jours, oui. Et le soir, avant de s'endormir, bien, il regardait une image de Jésus au-dessus de son lit, puis il se demandait, est-ce que Jésus va m'appeler cette nuit? Il était persuadé qu'il devait vivre le même scénario que Samuel, de tout enfant, hein? Parce qu'il avait entendu Dieu l'appeler plusieurs fois dans la nuit, ce Samuel. On se souvient bien de cette histoire, moi je l'aime bien cette histoire. Et parfois, une tante religieuse passe quelques jours au village, Jean-Daniel Ballet, dort à l'heure tout habillé parce qu'il veut pas manquer le matin la messe avec sa tante pour l'accompagner. Elle est religieuse. Il avait le goût du sacré, c'était presque une sorte de jouissance physique. Il se sentait vraiment très, très bien dans une atmosphère religieuse, à la messe, dans l'Eucharistie. Alors vers 12-13 ans, sa foi était très mûre. Il avait un rapport très vivant avec Dieu. Il débattait de grands problèmes avec lui, avec Dieu, oui. Il lui racontait ses histoires d'enfants, et Dieu était pour lui une personne tout à fait réelle, hein, qui faisait partie de sa vie. Son seul problème, c'était ce qu'il appelle la finitude, parce que lui, il était limité. Lui, Jean-Daniel, il n'arrivait pas à être assez donné, assez proche de Dieu. Il lui arrivait même de songer à la mort. Oh, c'était pas du tout morbide. C'est uniquement pour rejoindre Dieu, oui. C'est pourquoi il regardait les vieux avec respect et envie. Hein. Eux, ils étaient proches de la rencontre, ah, les chanceux. Et cette forte dimension religieuse, Jean-Daniel Ballet vit ça jusque vers l'âge de 14-15 ans. Oh, là c'est la catastrophe, il part alors de son village pour se rendre au collège de Saint-Maurice. Pour devenir prêtre, évidemment, parce que les choses étaient claires à ce sujet depuis longtemps pour lui et ses parents. Alors il s'en échappe 6 mois plus tard, c'est un échec total. Cet internat, ce pensionnat, était trop rigide pour lui, c'était insupportable, et pour ne pas perdre complètement l'année scolaire, ses parents l'envoient 3 mois en Allemagne pour perfectionner son allemand. Ses points de repère habituels disparaissent, il expérimente la solitude, le désarroi. Puis la rentrée suivante, se fait dans une école privée du système Montessori, ça existe un peu ici. Et ça fait son affaire, il s'y éclate, là. Il y a une responsabilisation dans ses écoles, une autonomie, ça lui va comme un gant, tout ça. Au niveau scolaire, la réussite est évidente, du côté spirituel cependant. C'est très vite le néant, hein? Comme ça arrive à tant de nos jeunes aujourd'hui. Et bientôt, il tombe amoureux d'une fille un peu plus âgée que lui. C'est une adepte de Friedrich Nietzsche, celui qui a dit que Dieu est mort. Alors il y perd la foi. Le futur frère Jean-Daniel raconte comment ça s'est passé. Voici ce que ce prêtre raconte de cette relation. La relation amoureuse était complètement folle, c'était une passion totale que j'avais pour elle. Notre amour était avant tout idéologique, mon ami avait d'énormes exigences et croyait en mes possibilités. Elle lui disait... Tu dois donner le meilleur de toi-même, mais tu dois découvrir en toi. Alors il doit suivre une sorte d'itinéraire pour, arriver au meilleur stade de la pensée. Il a 16 ans. Quand, en 3 mois, il lit tout Nietzsche, il était emballé au point qu'il passait des nuits entières en buvant du café. C'était, dit-il, l'une de ses exigences, car Nietzsche était le maître, c'est lui le maître. Il dit « Je devais rejoindre sa vision des choses au-delà du christianisme et de la religion. » Et il ajoute « J'étais un bon élève, je suis arrivé à dépasser ma foi. » Manifestement, Dieu n'existe pas. C'était une illusion. Moi, j'étais la réalité. J'étais athée. C'est un Dominicain qui parle. Imaginez. Comme quoi le Christ accomplit des choses fantastiques encore aujourd'hui. Hein? Et cette période nichéenne durera 7 ans, donc jusqu'à 24 ans. Il faisait chaque soir une sorte d'examen de la journée qui pouvait durer jusqu'à 3 quarts d'heure à peu près, là, pour vérifier si la journée avait été bien vécue ou non. Et cela marchait bien parce qu'il était passionné. Et le frère Jean-Daniel continue, il raconte, « Elle et moi, nous vivions dans une bulle. Durant ces 7 années, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qu'elle. » Ni elle quelqu'un d'autre que moi. Évidemment, nous parlions avec d'autres personnes, mais nous ne sortions avec personne d'autre. Nous n'allions pas manger chez des amis. Aucun ami ni parent ne savait ce que nous vivions ou n'entrait dans notre relation, qui était une sorte de fusion totale à deux. C'était terrible, exigeant de plaisir et de destruction. C'était un jeu de pouvoir aussi. Elle m'avait formé. Puis, ayant appris, je voulais lui imposer mes propres vues. Une sorte de rivalité passionnelle nous habitait. En fait, c'était invivable. Alors, à 20 ans, notre Jean-Daniel Ballet part étudier à l'Université de Genève. Il ne rentre que le week-end dans le Valais chez sa copine. Ce nouveau rythme lui permet de respirer un peu en dehors de la bulle créée avec son ami. à Genève, bien, il avait du temps, de l'espace. Il s'était inscrit en musicologie par goût, puis en bluffant un peu, il n'y avait aucune base musicale. Mais il dit que ça a marché. Il voulait être musicien, c'est pourquoi, après l'université, il est entré au conservatoire. Il était également un peu plus libre. Sa relation infernale avec sa copine ne le prenait plus que le week-end, mais continuait d'être extrêmement agressif avec les choses de Dieu puis de la religion catholique. Beaucoup plus tard, ayant retrouvé la foi puis sa vocation, il a compris à quel point cette relation avec cette femme était devenue un gouffre, une sorte de prison dont il ne pouvait s'échapper. Il sentait très bien qu'il ne pouvait plus s'y épanouir du tout. Il pouvait pas grandir là-dedans, mais il pouvait pas en sortir non plus. Passer à une autre femme n'aurait servi à rien, ça aurait été au mieux la même chose, parce qu'il aurait choisi un même genre de femme. La seule réalité qui pouvait le déployer, l'ouvrir, c'était Dieu, dont la dimension infinie permet sans cesse, vous le savez, hein, à l'homme de grandir. Et les années passent, et Jean-Daniel Ballet, il aime ses études. Il aime la musique. Il a 24 ans, lorsqu'un dimanche matin, il se promène dans la ville. Il raconte, passant près d'une église, j'y entre pour visiter. C'était la messe. On lisait la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. J'entends, donne-moi à boire. Et là, donne-moi à boire. J'ai retrouvé la foi. En un instant, Jean-Daniel Ballet est transformé. Il ne peut guère expliquer ce moment décisif. C'est très étrange, et après avoir tout perdu en niant l'existence de Dieu qui était son ami d'enfance, eh bien Dieu intervient à nouveau dans sa vie sans crier gare. Il raconte ça d'une façon surprenante, ce Dominicain. Il dit, j'ai été retourné comme une crêpe, je suis entré comme ça dans l'église, et quelques instants plus tard, j'en suis ressorti comme ça. Il dit ça en faisant pivoter sa main ouverte, une crêpe qu'on retourne dans la poêle. Et avec la foi, j'avais retrouvé ma vocation. En sortant de cette église, je savais déjà que je deviendrais prêtre. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Cette seule parole suffit à le convertir. C'est comme si Jésus lui demandait à lui de lui donner à boire. Dès cet instant, les choses n'ont pas été faciles, mais elles sont claires. Dieu existe et il l'appelle. Il le prend comme il est, Dieu. Il a besoin de lui. Il n'a plus de temps à perdre, Dieu. Et c'est à l'église Saint-François, paroisse tenue par les frères de Saint-Jean. Et là, il va sans attendre voir un frère qui s'appelle Samuel. Samuel, même, mon Dieu, cet homme au nom identique au personnage biblique de son enfance, hein. Ah, c'est le responsable de la communauté genevoise des frères de Saint-Jean. Et il le prend au sérieux. Vous savez qu'il y en a à Saint-Jérôme deux frères de Saint-Jean, hein, qui ont des costumes gris, là. Il le prend au sérieux. Le week-end suivant, il raconte son expérience, sa compagne. Et pour lui, c'est tout ou rien. Une femme avait remplacé Dieu, eh bien Dieu remplace la femme. Depuis ce jour-là, il ne fait plus l'amour avec elle. Même si leur séparation prend un certain temps, son amie était stupéfaite. Elle essaie longtemps de le récupérer. Elle ne veut pas le perdre. Durant toutes les années de préparation au sacerdoce, elle est là, toujours. Elle le suit toujours. Il sait qu'il peut retourner en arrière et la reprendre, changer de projet. Il la retrouvera immédiatement, elle est prête. Et puis quand il est ordonné prêtre, elle disparaît. Sans doute qu'elle a compris que la page est vraiment tournée. Vous vous demandez peut-être à quel moment a eu lieu cette conversion. C'est au printemps 1989. Ça va faire 9 ans bientôt. Qu'il s'est converti. Il est dominicain aujourd'hui. Désespérez pas si vos enfants vivent des aventures sexuelles avec des gens qui leur disent que Dieu n'existe pas. Priez, priez. Et la conversion de Jean-Daniel Ballet, donc, qui a lieu comme ça en 1989, alors, sans attendre, il cherche comment réaliser sa vocation. Alors, le frère Samuel, de la communauté Saint-Jean, lui conseille d'aller voir chez les Dominicains. Il prend rendez-vous avec le responsable du noviciat des Dominicains de Fribourg, en Suisse. En nous, il parle une heure avec lui. Il lui faut quelqu'un qui le comprenne tout de suite. Il a la chance de le rencontrer. Ce frère dominicain comprend qu'il n'a pas le temps d'entrer dans un long processus et qu'il faut le prendre au vol. Et 2 semaines plus tard, il entre au couvent à Fribourg. Ça y est. 2 semaines après sa conversion. À son habitude, Jean-Daniel Ballet n'a rien dit à personne. Et 4 mois plus tard, lors d'un repas de famille, il n'a pas de costume, il laisse tomber dans la conversation. Au fait, papa, maman, je suis entré au couvent. Un coup de massue n'aurait pas fait plus d'effet. Les pauvres parents, heureusement catholiques, mais ils ne comprennent plus rien. Ils en sont encore à son étape précédente où il avait cette maîtresse, cette amie, cette copine, je ne sais pas comment on appelle ça, là, sa conjointe, et il était athée. Une année de noviciat suit le postulat, puis arrive le premier engagement temporaire, un 3 ans de vœux temporaires, puis finalement l'engagement définitif, pour toujours les vœux solennels. Parallèlement, Jean-Daniel poursuit les études qui l'amènent au sacerdoce, puis devenu prêtre dominicain, mais se retrouve dans la communauté d'une paroisse, comme je vous ai dit. Il est là, à Genève. Son engagement dans la vie religieuse ne fait pas de place au doute. Il s'est converti, il a retrouvé la foi, il veut se donner à Dieu avec générosité, puis sans demi-mesure. Puis il a compris, un peu plus tard, qu'il y a probablement aussi là-dedans un petit désir, peut-être, de se libérer de sa compagne qui l'entraînait dans le malheur. Il supporte plus ou moins la vie communautaire. D'ailleurs, il raconte, au début, c'est stimulant la vie communautaire, puis on se lasse un peu. Il ne faut pas croire qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. Non, on ne peut pas dépendre des autres. Il faut s'assumer dans la vie communautaire. C'est pas un refuge. En fait, en communauté, nous sommes seuls, on se réveille, on se couche seul. Nous pouvons avoir de belles discussions, mais elles ne comblent nullement la solitude qu'il appelle la solitude affective. C'est une illusion, dit-il, de croire que la camaraderie, la fraternité remplacent les besoins affectifs. Il y a un vide à gérer. Vous ne savez pas comment et personne ne peut le faire à votre place. Surtout, il faut pas vouloir le combler, ce serait la porte ouverte à des travestissements puis des comportements anormaux. Et il continue, dans la vie religieuse, le danger le plus grand, c'est la perte de la vigilance. Vous devez rester bien orienté vers Dieu, car vous ne vivez pas dans une situation naturelle. La solitude affective est en soi invivable. Elle se situe au-delà des forces de l'homme. Et la quête la plus grande de la vie religieuse, c'est peut-être justement celle-là. Vous devez chercher un équilibre personnel qui se trouve au-delà de la nature des choses humaines. Il explique ça admirablement bien, ce jeune dominicain. Il a 35 ans. Et il ajoute, « Je suis tout à fait d'accord avec saint Thomas, qui disait que la chasteté est un holocauste. Je m'offre tout entier à Dieu, donc avec ce que j'ai d'essentiel. » Ma sexualité, je la mets dans la balance. C'est comme dans un mariage où vous apportez ce que vous êtes et où vous renoncez à d'autres choses pour consacrer votre vie à votre conjoint, à votre famille. Après une si longue période sans foi, remplie de sexe, Jean-Daniel Ballet a-t-il retrouvé avec Dieu la relation qu'il entretenait dans son enfance? Non, non. À l'époque, quand il était jeune, il avait un rapport très intime, je vous l'ai dit, un rapport affectif et passionnant avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu se manifeste surtout dans les autres. C'est à travers les gens qu'il découvre Dieu. Le chemin est renversé. C'est l'autre qui lui redit Dieu. Il ne peut plus rester seulement dans un dialogue personnel. Il est devenu un vrai prêtre. Frère Jean-Daniel l'explique bientôt. D'une façon admirable, la vie religieuse est exigeante. Il ne s'agit pas d'être l'homme d'une mission. Dieu n'a pas besoin de fonctionnaires. Des fonctionnaires qui transmettent son message. Dieu a besoin de personnes qui vivent en relation étroite avec lui. Et nous devons être partie prenante d'un véritable dialogue avec les gens qui sont le Christ au fond. Et pour passer auprès d'eux, notre rapport à Dieu doit être authentique et vécu. Il ne suffit pas de dire et de parler. Il dit que c'est assez difficile, car le plus simple serait de se contenter de parler de lui. Quand on a pour fonction d'apporter Dieu aux autres, on peut très vite oublier qu'il nous faut d'abord et toujours l'écouter. Avant de le donner, il dit « Je dois obéir ». Il parle de l'obéissance de façon admirable. Il dit « L'obéissance justement est le vœu fondamental que l'on prononce chez les dominicains, où la chasteté et la pauvreté n'en sont que la conséquence. L'obéissance, c'est rester sous la parole de Dieu, être attentif à ce qu'il veut, lui, à ce qu'il attend de nous. Pour ma part, dit ce jeune dominicain, quand j'ai commencé le noviciat, j'ai pas regardé ce que la vie dominicaine pouvait dire dans le détail. J'ai pris tout le paquet. C'est le projet global qui m'intéressait. Alors pour ce religieux, ce prêtre, cet artiste, compositeur, musicien, le royaume des cieux n'est pas différent de ce que tout bon chrétien pourrait en dire. Il dit chaque fois qu'en nous et autour de nous, un choix est fait pour l'amour, pour le don, mais le royaume de Dieu est présent. En ses actes, il y a tout, car ses actes restent pour l'éternité. J'aime, dit-il, le rappeler lors des enterrements, car il nous relie à l'être même de Dieu, nos actes, que nous rejoindrons complètement dans l'au-delà, dans la contemplation. Personnellement, je le vois constamment à l'œuvre, ce royaume de Dieu. Et à chaque geste que je pose, que nous posons, il gagne du terrain sur le monde. Voilà donc un successeur de Saint Raymond de Peignafort, le saint d'aujourd'hui, un disciple, un frère, un jeune frère de ce grand saint, Saint Raymond de Peignafort, un vrai dominicain. Il y a toujours des dominicains ici. Puis il y en a d'excellents à Montréal. Ce frère Jean-Daniel Ballet a entendu « Donne-moi à boire ». Cette parole de Jésus adressée à Sainte Photine, la Samaritaine. Eh bien, je vous parlerai de cette Sainte Photine le 20 mars prochain. J'espère vous faire une bien belle émission. Cette parole a transformé la vie de Jean-Daniel Ballet, qui est passé de Nietzsche à l'Évangile. Et il a trouvé le bonheur.